Chapitre 2 Le Pierrot Blanc. Tout en parlant, Martin Dumas, avec une habileté que lui eussent enviée les plus expertes modistes, se mit à coudre dans la capuche de son domino un nœud de ruban blanc formant, comme chez la belle Elvira, une croix de Saint-André. Il reprit « J'ai aussi étudié, avant de venir ici, la loge de la Foca Morée et les alentours. Il y a dans la loge un Pierrot Blanc. J'en ai croisé deux ou trois dans les couloirs. Oh, ce sont probablement des espions, des conjurés. C'est par leur costume de reconnaissance. Je le crois, mais vous savez qu'avec le domino, le meilleur et le plus commode déguisement, c'est le costume de Pierrot qui, ample, dissimule absolument l'individu, permet, si l'on veut, de conserver dessous son habit de soirée. En effet, et la présence de ces Pierrots dans les couloirs et de l'un d'eux dans la loge d'Elvira n'est pas naturelle. Il est certain que c'est leur tenue de raillement, mais j'espère toutefois qu'ils n'ont pas deviné qui, quand je les ai croisés, se cache sous mon domino. Oh non, je vous assure que même prévenu comme je le suis, j'ai peine à vous reconnaître. Je le crois, sans cela, ce serait désastreux. Martin Dumas, tout en achevant de coudre son nœud de ruban à son domino, ajouta « Le chevalier Pontis est dans un café qui donne sur la place de l'Opéra. Il attend là mes ordres. Je lui ai fait dire de monter ici, on va vous l'amener. » Dans quel but ? Il faut surveiller du plus près possible le comte du village Cherboli au moment de la rencontre, être là pour la scène sensationnelle. Or, le chevalier ne peut, sous peine de faire tout manquer, se précipiter en habit, se faire reconnaître. Le piège serait éventé. Oui. Alors nous allons lui dire de passer un déguisement. Un domino ? Oh non, c'est le domino ! Nous finirions par ne plus nous reconnaître pour nous embrouiller et pour nous gêner. Le chevalier va se charger en Pierrot Blanc. Il n'a besoin, lui, que de se tenir dans le couloir. À ce moment, on frappa à la porte plusieurs coups espacés de certaines façons conventionnelles. « Entrez !» dit Martin Dumas. Le gentleman qui m'avait abordé dans le hall et qui était, je le reconnus alors, Philippe le peintre, parut précédant le chevalier. Martin Dumas, en quelques mots, mit Fontis au courant de la situation, lui indiqua ce qu'il devait faire. Aidé par Philippe, le chevalier revêtit aussitôt un Pierrot Blanc, en tout point ou à peu de choses près, semblable à ceux qui entouraient la fameuse loge. « Les autres, dit alors Martin Dumas, ont pour se reconnaître le fameux signe de l'X, et nous, pour la même raison, adoptons ce signe, la main ouverte, la paume en dehors. » « Très bien. C'est un geste naturel, un gym facile à faire, et très visible pour qui est prévenu, et assez simple pour ne pas être remarqué par les non-initiés. » « Bon, entendu. Vous, mon cher Courville, me dit Martin Dumas, vous pouvez retourner dans le hall. Votre mission que vous avez remplie le mieux du monde est finie. Rôdez au gré de votre fantaisie, aux alentours toutefois de la Foca Morée. On vous préviendra quand il sera temps et on vous dira où nous pourrons nous retrouver. » Je suivis Philippe qui me fit traverser les couloirs réservés et rentrer dans le bal, puis m'abandonna pour aller, lui, reprendre le poste que son chef lui avait attribué. Pendant que nous étions dans la pièce au déguisement avec le chevalier Martin Dumas, dans la loge de la Foca Morée, se fit un mouvement indiquant un trouble profond. Le Pierrot Blanc que j'y avais remarqué et qui, comme le comprit Martin Dumas, n'était autre qu'un membre de la société placé aux aguets, venait de dire à la belle Elvira « Le comte de Villacherboli est au bal. » Cette nouvelle inattendue produisit une profonde sensation. Il est assis dans le couloir. Celui-ci, oui, il peut voir par le judas en passant, ou là, en faisant le tour, qui se trouve ici. À ces mots, le marquis Primo di Carmine Santucci, qui se donnait assis à côté de la belle Elvira, se leva. Il vaut mieux, dit-il, qu'il ne puisse pas me voir parmi vous, avec toi, Elvira. Cela est prudent, en effet, allez, va-t'en. D'ailleurs, nous n'avons plus rien à nous dire ce soir. Tu sais tout ce qu'il faut savoir. Adieu, Primo. Adieu, Elvira. Le marquis alors se retira rapidement. Ce que je vous ai pas dit, reprit le Pierrot Blanc, quand le marquis fut sorti de la loge, c'est que Martin Dumas est aussi au bal.
Martin Dumas ? Fit-on surpris.
Oui, il est ici, au bal.
Pas pour nous, il est impossible que ce soit pour nous.
Pour nous, au contraire.
Mais comment savez-vous cela ?
Ben, nous avons suivi tout aujourd'hui le chevalier Fontis, et cet après-midi, il est entré avec une jeune femme chez le couturier, d'où vous, Elvira, vous veniez de sortir.
Je le sais, dit Elvira,
je l'ai vue, je connais la jeune femme. C'est une petite mendiante dont, sous les haillons, il devina la beauté et qu'il comble aujourd'hui de ses bontés.
Puis rageusement, elle demanda au Pierrot Blanc,
« Mais quelle importance peut avoir cette coïncidence ?»«
Mais très grande, il a vu votre domino.
Qu'est-ce que cela fait ?»«
Cela fait que dans la soirée, il est allé rendre visite à Villacherboli. »«
Chez moi ?
Chez vous ?
Oh, mais cet homme devient très gênant !» dit la Foca Morée avec un geste de colère.
Et naturellement, le valet de chambre
du comte, qui se tenait aux écoutes, l'a parfaitement entendu tout révéler à Villacherboli, lui dire que vous deviez être ici.
Qu'a dit le comte?
Oh, il a voulu nier, déclarer que cela était impossible.
Il savait, dit un habit noir, qu'Elvira devait être avec nous, avec ma femme et moi, passer la soirée.
Sans doute, mais cette partie masquée lui a paru surprenante. Dès que le chevalier est parti de chez lui, il lui a dit à son valet de chambre de l'habiller et il est sorti.
Il est venu au bal ?
Il est venu ici. Il errera pendant quelque temps, puis fatigué, il s'est assis sur une banquette.
Et Frontis.
Oh, le chevalier, il s'est rendu chez le détective.
Martin Dumas, parfaitement. Nous l'avons suivi jusqu'à la rue Le Pic, pas de doute.
Alors,
bien un peu après, le chevalier est redescendu dans Paris. Il est rentré chez lui, on est sorti en habit, et maintenant, il se trouve dans un café donnant sur la place de l'Opéra. Il attend.
Et Martin Dumas, qu'a-t-il fait ?
Martin Dumas, il est sorti de chez lui, il a fait quelques courses dans Paris, puis il est entré à l'Opéra.
Lui aussi ?
Maintenant, il se tient dans une loge, caché sous un domino. Avec lui se trouvent d'autres dominos.
Des agents à lui ?
Le Pierrot Blanc sourit. D'ailleurs, Martin Dumas n'est pas venu pour nous.
Pour qui donc ?
Mais Martin Dumas, sur les indications du chevalier, n'est là sans doute que pour constater la trahison d'Elvira.
C'est déjà beaucoup, car cette constatation peut amener une dislocation.
Villacherboli est jaloux, rageur.
Mais en ce moment,
Quel faible comme il est, que peut-il faire? S'écria la belle Elvira.
Oh, qui peut le dire?
Mais il m'aime tant que j'aurais vite fait de le retourner, de détruire les plus accablantes preuves et de le reprendre.
Le Pierrot Blanc étendit la main. Oh, nous avons prévu cette éventualité de la surprise de la rencontre du comte au bal avec vous.
Et qu'avez-vous fait?
Ma chère Elvira, nous avons déjà paré ce coup.
Comment cela?
Pilate Cerboli sait que vous êtes avec les amis Palestrini.
Oui, c'est lui qui m'a engagé à passer la soirée avec eux. Parfait. J'ai donc mis à la poste un petit bleu dans lequel vous disiez, retenez bien ceci, vous disiez que les Palestrini, désireux d'assister à un bal à l'Opéra de Paris, vous y entraînaient. Et pour ne pas être reconnu et vu sans votre mari, vous portiez un domino comme Madame Palestrini. Et vous engagiez le comte, si ses forces lui permettaient, à venir nous rejoindre ici, à l'opéra, dans cette loge.
On applaudit à cette ruse.
Vous avez fait cela, c'est parfait. C'était une bonne précaution. Vous voyez qu'elle doit porter ses fruits quand vous vous trouverez en face de Divina Cerboli.
Alors je ferai par conséquent comme si je l'attendais. S'il ne venait ici qu'à ma demande, et le tour sera joué.
À présent, on riait dans la loge où, tout à l'heure, on s'était senti pris par une forte émotion. Cependant, le marquis Primo di Carmine de Santucci, ne tenant pas à être vu dans cette compagnie par Martin Dumas, comme nous le savons, s'esquivait en toute hâte. Au moment où il filait par la galerie, cherchant à s'abriter derrière les masques, les groupes, le comte di Villa Cervoli l'aperçut. Il se leva péniblement et avec effort, très faible, très souffrant. Mais Primo, qui précisément voulait par-dessus tout l'éviter, continua sa marche, feignant de ne pas le voir et ne se laissa pas rejoindre par le malade. Cependant, le comte di Villa Cervoli, grâce à ses quelques pas, se trouvait maintenant à peu près à la hauteur de la loge qu'occupait la belle Focamore, d'où venait de sortir le marquis de Carmine Santucci. Un Pierrot Blanc, qui sans doute le surveillait, le précédait. Et en passant devant la porte de cette loge, le Pierrot frappa du doigt comme pour un signal convenu. Était-ce ce que voulait dire ce signal ou se trouvait-on sur la signification?
Toujours est-il que la porte de la loge s'entr'ouvrit au moment précis où le comte di Villa Cervoli se trouva devant.
Aussitôt, plusieurs exclamations se croisèrent. Anglio, Elvira, Villa Cervoli, Palestrini.
Il y eut un moment de silence, comme il s'en produit après le cri spontané chez les gens surpris. Qui devait le premier se ressaisir et prendre le haut de la situation?
Enfin te voilà, Angio mio, s'écria la belle Elvira en se levant et en allant au comte. Tu as pu faire ce sacrifice, répondre à mon appel. Venir jusqu'ici, oh, que je suis heureuse, que je suis heureuse.
Très digne, luttant pour conserver tout son calme, toutes ses forces, le comte essaya de sourire.
Oui, cher ami, oui, fit-il, oui, je puis venir jusqu'ici, et je suis heureux de vous trouver. Oh, ça n'a pas été sans peine, je vous l'assure.
En effet, Anglio, tu es très pâle. Tu me parais extrêmement fatigué.
Oh, décidément, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te prier de venir. Pauvre ami, que de regrets. Mais nous avons rentré. C'est fini. Oh, je ne puis plus goûter aucun plaisir en te voyant ainsi. Nous rentrons.
Tout le monde dans la loge s'était levé.
Elvira fit des présentations au comte. Nos amis Palestrini, le baron Bastello, le prince Ramolino. À chaque nom, le comte saluait. Il connaissait d'ailleurs tout ce monde et se demandait pourquoi Elvira lui présentait ainsi ses compagnons. Tu vois, cher Anglio, fit-elle en riant, que j'étais en bonne compagnie. Mon bonheur eût été complet si tu avais été à mes côtés. Elle était sortie de la loge et avait remis son masque. Au silence froid du comte, chacun comprit que cette équipée n'était pas du tout de son goût et que la foca more allait en rentrant s'attirer une forte réprimande. Les Balestrini quittèrent aussi la loge et suivirent le comte et Elvira. « Oh, nous devons, cher comte, dit le Balestrini, vous présenter toutes nos excuses et vous dire que c'est nous qui avons entraîné ici Elvira. C'est pour nous faire plaisir qu'après nous avoir avertis, elle a consenti à nous accompagner, ma femme et moi, au bal de l'opéra que nous n'avions jamais vu. » Le comte, pour toute réponse, fit un geste à l'adresse de Palestrini. Il avait pris par le bras la foca more et l'entraînait lentement, se faisant plutôt porter par elle. Il la regardait, son front se plissait, et ses yeux froids brillaient étrangement. Sa bouche se crispait dans un mouvement volontaire du menton. La foca more ne perdait rien de ce jeu de physionomie. Elle échangea quelques coups d'œil singuliers avec les Balestrini, avec deux ou trois habits noirs et un pierrot blanc qui passèrent. Dans la loge étaient restés le pierrot blanc, le baron Pastiello et le prince Ramolino. Ils avaient refermé la porte de la loge et parlaient vivement entre eux, très émus, très contrariés. Martin Numa se trouvait à ce moment en face de cette loge, de l'autre côté du théâtre. Il fit un signe et les dominos, les gentlemen qui se trouvaient dans sa loge à lui, la quittèrent aussitôt. Derrière le groupe formé par le comte, Elvira et les Palestrini, qui cherchaient à se frayer un passage parmi la cohue, se tenaient le long du couloir la laitière aux volumineux appâts et le paysan normand, la Mimi Pinson, le pompier. En somme, les agents de Martin Numa surveillaient, suivaient. Le comte marchait lentement. Enfin, d'une voix blanche, pleine de rage contenue, ne pouvant plus garder ce qui lui brûlait le cœur, il dit à Elvira: « Je m'étonne, Elvira, je m'étonne grandement de vous trouver ici. Mais, cher Anglio, je vous ai prévenu par un télégramme. C'est impossible, je suis quand même douloureusement surpris de vous trouver dans cette loge. Mais vous savez bien que j'étais avec nos amis Palestrini. Sans doute, mais il y avait aussi avec eux le baron Paziello. » « Oui, en effet, dit Elvira en tressaillant. Il y avait aussi le prince Ramolino. Oui, mais ils sont venus saluer les Palestrini. Il y avait avec vous, vous dis-je, le baron Paziello et le prince Ramolino. Eh bien, s'écria nerveusement Elvira, quel mal y a-t-il? Grand, Elvira, très grand mal. Non seulement vous venez ici sans mon consentement, à mon insu, mais vous y rencontrez le prince Ramolino et le baron Paciello. Ce sont les amis intimes, les associés, les complices du marquis Primo di Carmine Santucci. Mais complices en quoi, pourquoi? Ces gens sont tous de parfaits gentilshommes. Vous savez cependant que le marquis Primo di Carmine Santucci est mon ennemi, qu'il a juré ma perte, qu'il cherche ma mort. » Elvira Focamore ne répondit rien. Le comte reprit:
Ainsi, vous, Elvira, ma femme, vous, Elvira, vous étiez en secret l'ami de mes ennemis. Depuis un moment, un Pierrot blanc, bousculant tout le monde, fendant la foule, cherchait à se rapprocher du groupe, à se tenir auprès de Villa Cerboli et de la belle Elvira, comme s'il voulait écouter ce que disait le comte, s'il désirait aussi lui parler. Palestrini avait essayé de le repousser, de l'arrêter, mais le Pierrot blanc insistait. Alors, dans un geste machinal, involontaire, Palestrini toucha l'épaule de la belle Focamore. Elvire, comprenant sans doute le sens de ce signe, s'était retournée vivement. Elle avait aperçu le Pierrot blanc. Et dans ses yeux noirs, sous son loup, un long éclair de haine jaillit. À ce moment, une bousculade se produisit. Une sorte de farandole de masques en délire passa, rejetant tout sur son passage avec des cris, des éclats de voix, des rires de femmes. C'était la joie au paroxysme, le plaisir poussé à l'énervement, le tapage et le mouvement atteignant la folie. Et plus haut que tout cri, que ces éclats de rire, dominant tout ce bruit, un cri de douleur retentit. Et quand la farandole fut passée à terre, au pied du domino de la belle Elvira, se trouvait étendu, râlant dans une mare de sang, le comte di Villa Cerboli, un poignard planté dans la poitrine.